Monsieur Lalonde, comment allez-vous?
Bonjour, messieurs.
Le sujet, écoutez bien ça, ça fait longtemps que je me pose des questions là-dessus, là, c'est-à-dire les fameuses ententes commerciales pour trouver une raison sociale à un stade de sport. Tu sais, bon, on le sent belle, on comprend que c'est ça. Mais oui, il y a des exemples, évidemment, partout en Amérique.
Oui, il y en a dans le monde entier, partout.
Oui.
La raison pourquoi je voulais en parler, Paul, c'est parce qu'hier soir, je vous avais parlé d'un stade à Los Angeles qui a ouvert hier, qui s'appelle le SoFi ou SoFi, peu importe, là, ça veut dire Social Finance. Le nouveau bijou des Rams qui a coûté 5,5 milliards. Ben, on l'a vu à la télé hier pour la première fois. Puis quand tu regardes comme ça, ça a l'air d'un terrain de football comme les autres. 100 verges de long, deux zones des buts, deux poteaux. Honnêtement, sur le terrain, là, aucune différence. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'infrastructure, c'est la technologie. Puis à travers ça, je souligne que M. Kroenke, qui est le propriétaire, il l'a payé de sa poche, le stade. Fait qu'on ne peut pas vraiment dire « Wow, ça coûte cher les stades de sport ». Lui a décidé que son budget, c'était 5,5 milliards, puis il allait payer la facture, donc 100% privé. On souhaiterait, Paul, que tous les investisseurs de sport payent leur stade eux-mêmes, right?
C'est comme l'exception, lui.
Et ça, c'est une des exceptions. Il y en a d'autres.
Ben, mais Molson avait payé pour le Centre Bell au début, là.
Oui, il a acheté lui-même.
Il n'y a pas de subvention, il n'y avait rien de ça, là.
Oui, exactement. Mais c'est rare, ça. Parce que de plus en plus, ces propriétaires-là se disent, ben regarde, nous, on est un engin économique local, donc on va apporter quelque chose de positif dans la communauté, aidez-nous à payer la facture. C'est souvent comme ça que ça se déroule. Puis on essaie souvent d'arriver à ce qu'on appelle un partenariat privé-public, c'est-à-dire une entente à deux, puis on partage, puis on divise. Et ça, généralement, c'est la façon de faire. Mais la raison pourquoi je vais en parler hier, c'est que ça m'amène à expliquer aux auditeurs pourquoi les entreprises paient tellement d'argent. Et le record de tous les temps, bon, en passant, celui d'hier, là, le SoFi Stadium, là, c'est 30 millions par année pendant 20 ans.
Hey boy.
Pour avoir le nom d'une entreprise peu connue avant le début de l'année 2019, lorsqu'ils ont nommé le stade. Et les gens paient pourquoi? Parce que ça commence d'abord et avant tout par des milliards d'impressions. Des impressions dans les médias traditionnels, sur les médias sociaux, à la télé, à l'Internet, toutes les mentions, on fait toujours référence au SoFi ou SoFi Stadium. Alors déjà, il qualifie que le coût par mille pour ça, quand c'est des milliards, ça devient un bon investissement. Le record de tous les temps, ça, c'est proche de nous. C'est à Toronto. Le Scotiabank Arena, qui en 2018-19, juste avant la saison complète qui a mené au championnat des Raptors, ont signé une entente avec MLSE, 40 millions par année pendant 20 ans. Ça, là, c'est un record mondial d'argent dépensé pour modifier le nom qui s'appelait autrefois Air Canada Center pour devenir Scotiabank Arena. Puis Scotiabank Arena l'a fait pour plusieurs raisons. Il se disait, nous, on veut dominer le marché du hockey au Canada.
Parce qu'il y a d'autres amphithéâtres au Canada, je pense, qui ont le nom Scotiabank aussi,
oui,
hein, si je me trompe.
Oui, Scotiabank Saddle Dome, par exemple, à Calgary.
Oui.
Alors, tu as raison, Alain. Puis ils ont 8000 investissements de sport, d'associations, de clubs, d'organisations mineures, un peu plus majeures, au Canada entier. Alors, leur objectif à eux, c'est que quand on parle de hockey au Canada, le sport national qui touche les gens, on va dominer ce marché-là. Et je donne un autre exemple. Le Allegiant Stadium, celui que les Raiders de Las Vegas vont inaugurer cette année, c'est 25 millions par année. Alors, c'est des grosses sommes d'argent. On veut être associé à une organisation gagnante. On veut un site qui est connu, un site touristique. On veut qu'il y ait des gros événements. Parce que le Scotiabank Arena à Toronto, justement, c'est peut-être le lieu de concert pré-pandémie le plus populaire au Canada. Un des plus populaires au monde. On veut la notoriété locale, nationale. On veut pénétrer le marché. Il y a de la concurrence là-dedans. Puis on croit que cet investissement-là en vaut la peine. Et surtout dans le cas de Scotiabank, parce qu'eux autres pensent que le hockey, ça fait vibrer le pays, puis que quand on pense au hockey au Canada, on pense à eux.
J'ai une question.
Oui.
Centre Bell, est-ce que, je dirais que c'est, ou Scotia, comme tu viens de décrire, là, est-ce qu'ils ont un mot à dire sur les commandites qu'on retrouve sur les rampes de la patinoire? Autrement dit, est-ce que la Banque de Montréal pourrait aller afficher sur la patinoire dans un amphithéâtre commandité par Scotiabank?
Oui, c'est une excellente question. D'abord, le Centre Bell, on avait négocié en 2002 une entente de 20 ans et 5 millions par année pour 100 millions au total. Et entre-temps, M. Gillette avait renégocié l'entente. Alors, la relation avec Bell et les Canadiens est très importante parce que Paul Alain, un peu plus tard, en 2008-2009, Bell est devenu un actionnaire des Canadiens. Et Bell, aujourd'hui, a acheté les droits pour à peu près une soixantaine de matchs qui diffusent via RDS à chaque année. Donc, la relation est très profonde. C'est pas juste le nom sur le bâtiment. Pour venir à ta question, le dossier des banques, c'est une bonne question, Paul. Parce que les Canadiens, pendant longtemps, avaient la zone Desjardins qu'ils ont encore. Ça, c'était la zone réservée où on pouvait manger gratuitement au Centre Bell. Mais, à un moment donné, c'est venu à échéance. Alors, pourquoi pas tenter d'aller diviser ce gâteau-là en quelques banques pour augmenter l'argent et le retour. Alors, c'est là qu'ils sont allés chercher, par exemple, la Banque nationale, qui est devenue partenaire des Canadiens, mais uniquement réservée au complexe sportif Bell à Brossard. Puis, entre-temps, Scotiabank avait toutes les équipes canadiennes, mais n'avait pas les Canadiens comme commanditaires. Alors, pourquoi pas leur faire de la place sur les bandes au Centre Bell, mais Desjardins garde sa zone à l'extérieur. Tu comprends?
Il n'y a pas un pouce qui se perd.
Non, mais c'est brillant.
Ben oui.
D'une façon, ça a permis d'avoir trois investisseurs dans le monde des finances et des banques qui payent à peu près la même chose que l'autre payait auparavant. Donc, on a triplé la mise. Mais c'est certain, Paul, que ton point, c'est que tu ne peux pas avoir deux opposants dans une catégorie Coke et Pepsi, Apple et Microsoft, Molson et Labatt sur des banques dans le même amphithéâtre, ça ne marche pas parce que, évidemment, le commanditaire principal a le droit de réagir face à ça.
Tu payes pour une exclusivité aussi.
Absolument. Mais les équipes ont été capables de créer des zones et de couper ça au peigne fin là, pour que ça soit vraiment divisible et qu'il n'y ait pas de confusion chez les investisseurs et chez les fans. Alors, je reviens pour terminer, là, que hier soir, quand je regardais ce match-là, la conclusion, c'est que ce nouveau stade-là, c'est d'abord et avant tout un centre de technologie. Et de plus en plus, les stades, lorsqu'ils se construisent, ils s'assurent d'avoir de la meilleure technologie que le gars auparavant. Et de cette façon-là, on est comme dans une course aux armements. Qui a le plus gros? Qui a le plus cher? Qui a dépensé le plus? Qui a cette forme de technologie que l'autre n'a pas? Et hier, par exemple, une des choses que j'ai observées dans ce stade-là, c'est la première fois, en parlant de technologie, que Google et YouTube commanditent des équipes sportives dans leur stade. Et sachant très bien que Google est propriétaire de YouTube. Mais ça va être la vision de l'avenir. On en a parlé avec Seattle pour le Climate Pledge Arena, le nouveau domicile du Kraken, qui est la propriété de le domicile. Et le nom est la propriété d'Amazon, mais on s'en va de plus en plus vers les compagnies technologiques qui investissent dans les stades sportifs.
Merci, Ron. Bonne journée.
Ron?
Salut.
Ron.
C'est correct, Paul.
Ça va bien mon affaire. C'est trois lettres, mais tu sais, je me suis trompé dans le... Merci, Ray. C'est pas pire, celle-là. Oui, c'est pas pire. Il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui dépose un recours à la Cour supérieure pour demander au gouvernement de donner tous les documents qui ont permis d'établir le plan de la rentrée scolaire. Alors, le syndicat pense qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place qui sont, disons, questionnables, puis on veut savoir sur quelle base scientifique on a établi les directives en question. Et c'est le docteur Nima Machouf qui est un peu la référence, là. Par exemple, il considère qu'on doit porter, pour les enfants, le masque, même en classe. Puis il y a une série de questions qu'elle soulève. Donc, vous êtes basé sur quoi, Dr Arruda, pour prendre vos décisions? Ils s'en vont se battre en cour supérieure contre le gouvernement. La métropolitaine.